Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur le 101.5 de Radio G, sur le radio-g.fr et sur le DAB+. Donc, grand bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Radio G va continuer sa mission d'information, sa mission d'accompagnement. Précédemment, nous recevions des gens très investis dans l'assistanat, dans le bien-être, dans le soutien aux autres. Nous allons continuer dans cette orientation, puisque Radio G veut être le porteur d'espoir sur la région locale angevine et départementale, bien entendu. Et j'ai le plaisir à ce titre de recevoir une très belle personne, la personne de Gwenaëlle, mais je la laisserai se présenter elle-même. Gwenaëlle, bonjour. Quelle association, quelle structure représentez-vous ?
Bonjour, je représente l'association Ligérienne d'addictologie, qui est une association qui œuvre sur le département.
Alors, on va commencer par l'essentiel, l'ossature même de votre raison d'être, une association qui s'appelle ALDEA. Je veux tout savoir. Dites-moi ce que définit effectivement ce que définissent ces lettres.
Donc ALDEA, c'est l'association ligérienne d'addictologie. C'est une association qui gère deux établissements sur notre département. Un XAPA, qui est un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Et un CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue.
Alors nous parlions en amont effectivement de l'évolution de cette structure. Et est-ce qu'on peut commencer par l'origine même ? Puisque vous avez une représentativité départementale depuis 2009, si j'ai tout bien compris. Expliquez-nous, s'il vous plaît.
Donc effectivement, avant 2009 sur le Maine-et-Loire, il y avait trois associations qui accompagnaient les personnes avec une problématique alcool et d'autres structures qui accompagnaient les personnes avec une problématique qu'on appelait de toxicomanie. C'est un vocabulaire qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Et en 2002, il y a eu un décret national qui a créé les XAPA, donc les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, pour faire que les personnes, quelle que soit leur problématique de consommation, que ce soit problématique alcool ou un usage de produits illicites, aillent dans un centre, au même endroit, dans un centre de soins et d'accompagnement, de prévention d'addictologie. Donc les trois associations qui œuvraient avant 2009 ont décidé, sous l'impulsion de la DAS à l'époque, de créer ALDEA. Donc depuis 2009, il y a une seule et même structure qui accompagne ces personnes.
Très bien. Alors, Angers, première des villes où il fait bon vivre. Et quel constat faites-vous de cette évolution de besoins, puisque effectivement vous semblez être en croissance véritable d'activité. Quel constat faites-vous sur la région ici ?
On constate que d'une année sur l'autre, le nombre de demandes d'accompagnement ne diminue pas. La file active départementale reste stable avec un peu, en moyenne, 4000 personnes qui sont accompagnées chaque année. Donc voilà, c'est un constat qu'on peut faire. Ce qu'on peut constater également, c'est davantage de complexité dans les situations qui sont rencontrées. Donc en termes de volume, on reste à peu près au même nombre. Par contre, effectivement, en termes d'accompagnement, il faut un étayage plus important pour accompagner les personnes qui souvent arrivent vers le soin de façon tardive, plus tardive, et où les dommages, les conséquences dues à leur consommation, il y a des conséquences très négatives, et il faut mailler un accompagnant plus soutenu.
Alors, je déteste cette question, mais à quel public s'adressez-vous ? Vous adressez-vous, pardon, décidément, j'ai du mal, c'est midi. Et est-ce qu'il y a des origines qui se rejoignent un petit peu, ou est-ce que c'est complètement diversifié en termes d'appels au secours et de besoins ?
Donc on s'adresse à tout public. On a un dispositif spécifique au sein du XAPA qui s'appelle la consultation jeunes consommateurs. Donc comme son nom l'indique, pour les jeunes. Donc dans cette CJC, ce sont les moins de 25 ans qui sont accueillis. Il y avait un âge minimum au départ, et cet âge a été on l'a enlevé. On dit les moins de 25 ans. avec l'usage des écrans qui est arrivé un peu dans la vie des jeunes et de tout le monde. Et du coup, on accompagne autour des jeux vidéo et autres usages à travers l'écran. Donc donc ça peut démarrer 10, 11, 12 ans et puis jusqu'à des personnes de 80. Toute personne, il n'y a pas de rien. Il y a un âge un peu cible dans la demande de soins vers 39, à partir de 39, hein, le 39-49 ans est une période où sans doute les dommages sont déjà, les conséquences deviennent peut-être difficiles, de plus en plus difficiles dans la vie des personnes, et donc à cet âge-là, il y a un peu plus de demandes de soins. Sur cet âge-là.
Mais on accueille tout le monde. Alors, nous parlions tout à l'heure effectivement d'addictologie en toxicologie, en alcoolologie. Et est-ce que l'on peut parler en même temps d'addictologie aux écrans ? Est-ce que vous traitez ce phénomène ?
Donc, on accompagne effectivement autour de l'alcool, c'est majoritairement le produit à l'origine de la demande de soins à 57% dans notre file active autour de la question de l'alcool. Ensuite, c'est le cannabis, d'autres produits illicites suivent. Effectivement, les addictions, nous on appelle les addictions comportementales, donc comme les jeux de hasard et d'argent, ça c'est la première addiction comportementale à l'origine de la demande de soins. Ensuite, les addictions sexuelles, et effectivement la question du jeu vidéo, des achats compulsifs, donc les écrans en fait ne sont que, c'est le moyen d'accéder à, donc parfois à la pornographie, le moyen d'accéder aux achats compulsifs, le moyen d'accéder aux jeux vidéo. Voilà, ça reste l'outil d'accès, mais pour autant, l'objet d'addiction est plutôt de l'ordre de la pornographie ou des jeux de hasard et d'argent où on peut être sur son téléphone sans arrêt pour pouvoir jouer en ligne, par exemple.
Alors, 13 administrateurs, 85 professionnels salariés de cette structure. Quels sont les divers domaines, effectivement, de ces emplois salariés et vers quel public plus ciblé ?
Donc, on est une structure médico-sociale qui accompagne avec un accompagnement pluridisciplinaire des personnes qui demandent du soutien au niveau de l'équipe. Donc, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales, conseillères économie sociale et familiale. Nous avons des psychologues. Et puis ces différents professionnels vont avoir parfois développé des compétences particulières où on peut accompagner autour de avoir une pratique d'hypnose, d'acupuncture, de sophrologie. Voilà, la question du corps est aussi importante dans notre travail. Et puis toutes dans ces 85 professionnels, effectivement, les fonctions support classiques de gestion d'une structure.
D'accord, très bien. Alors effectivement, il y a deux domaines bien séparés, qui est effectivement ce domaine ambulatoire et le domaine hébergement. Comment pouvons-nous définir les deux et quelles sont leurs fonctions réciproques ?
Donc le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, effectivement, c'est un accompagnement et un soin qui se fait en ambulatoire. Les personnes viennent sur rendez-vous ou de façon spontanée. On a des permanences d'accueil sans rendez-vous pour accueillir les personnes. Et donc, elles vont être accompagnées individuellement. Pour certaines personnes, au décours de leur parcours de soins, il va y avoir une indication de sevrage hospitalier, par exemple. Donc, elles vont être orientées vers un hôpital pour pouvoir se sevrer du produit. Et puis, suite à ce sevrage, alors qu'il soit hospitalier ou ambulatoire, il y a des personnes qui ne veulent pas retourner à domicile, qui ont besoin de plus de temps pour asseoir un quotidien sans le produit présent ou le comportement addictif présent dans leur vie. Et donc, on a effectivement un centre thérapeutique résidentiel qui est une structure d'hébergement qui se trouve à Beaupro et qui accueille 12 personnes, des personnes majeures, sevrées, et donc jusqu'à un an d'accompagnement pour pouvoir les accompagner autour de ce quotidien sans produit et avec toute la place que ça laisse. Comment occuper ? Donc il y a effectivement toute la partie collective, mais il y a aussi des ateliers thérapeutiques autour autour de, d'ateliers d'écriture. C'est un ancien moulin qui a été réhabilité, donc il y a la question des espaces verts. Voilà, la partie hébergement est importante. Après, il y a d'autres structures. Donc, dans le jargon, on entend les post-cures. Donc, c'est ça, après un sevrage. Donc, il y a d'autres structures sur le Maine-et-Loire qui font aussi ce travail-là.
Quel constat faites-vous de la réussite de votre entreprise? Réussite humaine, bien entendu.
Donc ça, c'est une question qui nous est souvent... Donc on a un objectif de moyens et pas de résultats, parce que c'est vrai qu'en addictologie, c'est difficile de mesurer le résultat de notre travail. Ce qu'on peut mesurer, c'est effectivement dans un parcours, on va accompagner les personnes pour un mieux-être au quotidien. Et donc, ce mieux-être, ça passe pas obligatoirement par l'arrêt des consommations. Ça peut passer par sa gestion, sa modération. Et en fait, c'est faire que des personnes qui viennent, quand elles viennent avec un objectif de renouer une relation, des relations familiales, de retrouver un travail, de voilà. Ben, quand ces personnes, elles atteignent cet objectif-là, on peut se dire que voilà, les choses avancent positivement. Ce qu'on a tendance à dire en addictologie, c'est que plus petit changement possible est à valoriser, et c'est important. Donc voilà, à partir du moment où la personne se sent mieux dans son au jour le jour, ben voilà, c'est déjà beaucoup.
Et vous faites un constat de récidive de façon aléatoire, ou est-ce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent? C'est une question de pure curiosité pour moi.
Vous voulez dire s'il y a des voilà s'il y a des personnes qui reconsomment, etc.
Oui.
Donc effectivement. Le parcours, il est souvent, il n'est pas linéaire, et effectivement, on va dire la reconsommation, la rechute, hein, un peu plus négative. Donc, la reconsommation fait partie du parcours. On peut faire le parallèle avec la question du tabac, par exemple. Il y a une campagne en ce moment pour dire que les arrêts successifs sont que favorisant un arrêt définitif. Donc, c'est pareil pour toutes les autres consommations, effectivement, de multiplier les essais d'arrêt vont faire qu'à un moment donné, voilà, ça va être gagné.
Alors, pensez-vous être suffisamment nombreux en termes de professionnels, ou est-ce que est-ce que vous avez des besoins autres supplémentaires par rapport à cette situation?
Bien évidemment, voilà, je vous disais, le nombre est à peu près stable, mais effectivement, la complexité des situations fait qu'on doit, il y a de plus en plus de professionnels qui sont mobilisés dans les situations. Donc oui, ça prend du temps. Qu'en termes de délai, aujourd'hui, on n'est pas satisfait. On aimerait donner, quand une personne décroche son téléphone et souhaite un rendez-vous, on aimerait lui donner dès la semaine suivante, ou dans les 15 jours, ou les 3 semaines. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire ça. Donc, on peut dire que oui, on manque de moyens. Et puis, c'est toutes ces questions. C'est vrai qu'on a implanté à Angers, Cholet et Saumur. Ça oblige les personnes à devoir se déplacer quand elles habitent en milieu rural. Les questions de mobilité sont pas simples. Donc on aimerait pouvoir développer des projets d'équipe mobile, développer des projets de consultation avancée dans différents lieux, dans des maisons de santé ou d'autres. Donc effectivement, c'est une question de moyens.
Justement, vous relevez quelque chose d'intéressant. Y a-t-il une différence fondamentale entre le milieu rural et le milieu urbain quant à ces problèmes d'addictologie?
En termes de pratique, finalement, on se rend compte que où que ce soit, il y a des problématiques, que ce soit en milieu rural, milieu urbain, peu importe, des problématiques de consommation ou de pratiques addictives. Par contre, effectivement, en termes d'accès aux soins et d'accompagnement, le milieu rural est moins bien doté. Et effectivement, il faut faire une démarche de se déplacer pour pouvoir avoir accès. Donc, c'est une difficulté et c'est un frein à l'accès aux soins.
Très bien. Alors maintenant, nous allons développer un peu plus, effectivement, le sujet, puisque effectivement on parle d'addictologie, ensuite nous abordions le terme du suicide, plus ou moins associé à moyen, court et long terme. Quelle approche avez-vous de cette situation et comment êtes-vous préparé à aborder cette éventualité?
Comme je le disais, l'objectif des équipes, c'est d'accompagner les personnes vers un mieux-être. Donc il y a toute l'évaluation, médico-biopsychosocial quand on accueille une personne pour effectivement évaluer l'impact physique, somatique des consommations, l'impact psychique et tout le retentissement sur son environnement. Donc il y a toute cette évaluation qui est faite et effectivement quand il y a une évaluation de personnes en grande souffrance psychique, eh bien on va essayer de mobiliser nos partenaires de la psychiatrie et de pouvoir orienter. Donc vous parliez de moyens tout à l'heure, la psychiatrie c'est aussi une grande difficulté en termes de ressources sur notre territoire. Donc voilà, on essaie d'être au plus en articulation avec ces partenaires là. Ben voilà, c'est toujours à la personne de faire la démarche. Après ça peut arriver d'orienter ou d'accompagner directement vers les services d'urgence effectivement quand une personne se présentait vraiment très mal, voilà.
Oui, parce que nous parlions récemment avec notre ami Hervé qui se reconnaîtra de l'association SOS Amitié qui avait des besoins croissants, des appels croissants. Vous, avez-vous cette difficulté? Est-ce que vous êtes en relation avec ces types de structures qui permettent également la prévention suicide sur le terrain?
Donc oui, on se connaît puisque Alia participe au collectif de prévention du suicide, donc avec SOS Amitié et 9 autres structures qui constituent ce collectif. Donc oui, on se connaît. Bien évidemment, il y a des orientations. Je parlais du soutien en psychiatrie, mais on peut avoir le soutien des structures du collectif quand il y a effectivement des orientations à faire.
Alors en tous les cas, toute l'équipe de Radio G tient à saluer le travail de toute votre équipe. C'est formidable ce que vous faites, donc surtout continuez. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Comment est-ce que l'on peut estimer qu'une personne est en danger et la conseiller d'aller vers vous?
À mon tour de vous remercier pour cette invitation. C'est vrai qu'on zoome sur Alia alors qu'on n'a pas besoin de recruter, clairement. Voilà, on souhaite que les personnes aillent bien et qu'elles aient pas recours aux substances ou aux comportements addictifs. Et voilà, mais en tout cas, c'est de laisser de faire lumière sur nous pour faire que les personnes ne restent pas seules avec cette problématique et viennent effectivement vers nos structures. Le conseil, c'est il faut en parler et on n'attend pas qu'il y ait des dommages sur ces consommations, qu'il y ait des conséquences pour en parler. Si on observe qu'un proche a un comportement qui nous questionne parce que tous les week-ends on trouve qu'il abuse ou parce que il y a un comportement qu'on trouve un peu inhabituel et ben on en parle et puis c'est la meilleure des choses de pouvoir en parler. Parfois ça peut être très passager et auquel cas c'est pas problématique et puis parfois ça vient aussi soulager une souffrance interne et donc il faut effectivement avoir des oreilles attentives pour pouvoir en parler et être orienté vers les structures.
Gwenaëlle, si vous aviez un appel à lancer, quel serait-il?
Alors là prenons soin de nous. Prenons soin de nous. On sait que l'époque est difficile les produits peuvent venir anesthésier un petit peu les choses. C'est vrai que l'angoisse de des actualités mondiales, de l'environnement, peuvent générer effectivement des souffrances psychiques.
Alors au-delà de cette souffrance, comment peut-on vous contacter?
Donc on peut nous contacter, donc on a un site internet, donc Alia49, où vous trouverez tous les coordonnées des différents sites, Angers, Cholet, Saumur. Peut-être un petit focus particulier sur Angers avec une possibilité de venir sur des permanences d'accueil sans rendez-vous qui sont le mardi après-midi et le jeudi matin. Les personnes se présentent spontanément et dans la mesure du possible, elles seront accueillies de toute façon et dans la mesure du possible, évaluées en individuel quand c'est possible.
Alors, Radio G lance cet appel à tous les auditeurs qui entendent ces informations. Et est-ce qu'il y a un lieu physique pour aller vous voir?
Tout à fait, on se trouve au 8 rue de Landemort, donc sur le quartier Orgemont-la-Roseraie, pour Angers. Et puis pour Cholet, on est 3 rue des Marteaux. Et pour Saumur, on se trouve... Et là, j'ai un petit trou.
La question piège, Gwenaëlle. Voilà. Enfin, peu importe. Je dirais qu'aujourd'hui, l'essentiel, effectivement, étant la région angevine pour l'instant, puisque, effectivement, nous sommes localement et physiquement ici, quoi. En tous les cas, eh bien, écoutez, c'est un réel plaisir de vous recevoir, très enrichissant et très informatif. Donc, merci à vous d'être venu expliquer tout ça aux auditeurs, auditrices de Radio G. Nous vous donnons, nous, de notre côté, rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle rubrique tout aussi passionnante. Et sachez que toutes les associations sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à prendre contact pour Radio G, pour, effectivement, la rubrique à l'assaut bi-hebdomadaire. Bon appétit à tous. À dans 15 jours.